une leçon de géopolitique.
Vous voulez tout savoir sur le conflit russo-ukrainien ? Nous allons tout vous expliquer, ou presque. Et tout simplement, la spécialité première AGGSP3 vous propose une leçon de géopolitique.
La résistance ukrainienne, l'Ukraine plus forte que prévu. Lorsque Vladimir Poutine, dirigeant de la Russie, a déclaré la guerre contre l'Ukraine, celui-ci ne s'attendait sûrement pas à une telle résistance. Aurait-il pensé que ce serait plus facile et plus rapide ? Néanmoins, les Ukrainiens se battent pour leur pays et sont prêts à tout pour ne pas laisser Vladimir Poutine gagner cette guerre. Volodymyr Zelensky, président ukrainien le premier. Celui-ci a fait appel à son peuple qui aujourd'hui se retrouve tous unis pour leur pays. Malgré tous les différends, il ne montre aucune faiblesse, ne se cache pas et se montre très proche de son peuple qui d'ailleurs possède une très grande organisation. Les Ukrainiens n'ont pas paniqué, tous unis pour leur pays restent sur place pour certains et combattent, résistent plus que jamais afin de garder ce pays pour lequel ils donnent leur vie. La place des femmes dans cette guerre est légitime, dotée d'un immense courage. La liste des exemples de femmes engagées dans la guerre en Ukraine est longue. Des couturières de gilets pare-balles, étoiles de camouflage, des mères de famille qui s'occupent de la logistique humanitaire, des étudiantes qui prennent les armes et tant d'autres.
Les femmes se battent pour leur pays, ce qui peut les mettre dans de terribles conditions, telles que accoucher dans une station de métro ou bien mener le combat sur la ligne de front. Mais bien sûr, l'aide extérieure de certains pays leur est cruciale, dont de la nourriture, des couvertures, des produits d'hygiène et des soins, etc. Ces aides leur permettent d'être encore plus forts et de ne pas se laisser faire. Le président Vladimir Poutine n'a guère plus de respect pour le droit humanitaire qu'il en a pour le droit international dans son ensemble. Samedi 5 mars, puis dimanche, deux cessez-le-feu négociés ont permis aux civils de fuir la ville de Mariupol étant assiégée et ont été violés. Chaque fois, les bombardements ont repris au moment où les populations tentaient de sortir. Les points de rassemblement ont été visés, la plupart des bus qui devaient servir à l'évacuation ont été détruits. Cet article vous a été présenté par Maïssa et Héloïse, et nos sources viennent de France Info, France 24, International et Le Monde.
За спокій в країні, за наше відродження, спинити загарбницькі руки.
L'impact économique de la guerre. Quel impact économique la guerre en Ukraine peut-elle avoir sur la vie des Français ? Le 24 février, la Russie, sous les ordres de Poutine, décide de mettre en place une opération militaire en Ukraine. Des militaires russes rentrent donc sur le territoire ukrainien. Après et même avant cette annonce du président russe, les pays occidentaux instaurent des sanctions contre la Russie pour venir en aide à l'Ukraine sans rentrer en guerre militaire avec la Russie. Pour cela, ils attaquent l'économie du pays, mais cela n'est pas sans conséquence. La guerre en Ukraine a un impact sur le pouvoir d'achat des Français. Tout d'abord, à cause de la hausse du carburant, la Russie étant le deuxième producteur et exportateur mondial de pétrole, alors forcément le prix a et continuera d'augmenter. D'après l'économiste Raphaël Borouman, la Russie et l'Ukraine exportent à eux deux tiers de la production mondiale du blé, alors son prix augmente également. Si le gouvernement décide un embargo total, alors la situation sera pire. Donc la question qu'on peut se poser... Et faut-il arrêter toutes les exportations de la Russie malgré l'augmentation des prix ? L'Union européenne ne pourra pas imposer d'embargo complet sur leur importation d'hydrocarbures russes, comme l'ont décrété les États-Unis. Quant à l'inflation, l'indice des prix à la consommation harmonisée IPCH devrait atteindre cette année entre 3,7% et 4,4%. La guerre en Ukraine a aussi un impact sur le tourisme en France. La Côte d'Azur est une destination très prisée par les Russes et les Ukrainiens, ayant un fort pouvoir d'achat. Cela représente 300 000 séjours par an, avec 76% de Russes et 12% d'Ukrainiens. Ce sont souvent des touristes jeunes et qui dépensent beaucoup. Cet article vous a été présenté par Aya.
За спокій в країні, за наше відродження, спинити загарбницькі руки.
L'Occident renforce ses sanctions contre la Russie. Comment l'Occident punit-il la Russie pour ses actes ? Le 24 février 2022, la Russie décide d'attaquer l'Ukraine en faisant passer cette attaque pour une mission militaire. Suite à cela, l'Occident a immédiatement réagi, c'est pourquoi la Russie fera face à d'innombrables sanctions afin de punir ses actes de guerre. Ces sanctions ont été mises en place par l'Union européenne, le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Japon.
Parmi ces sanctions, nous pouvons d'abord noter les sanctions économiques et financières. Tout d'abord, la Commission européenne a présenté un plan de réduction des importations européennes des hydrocarbures russes de deux tiers d'ici à la fin 2022 et de la totalité avant 2030. De plus, il a également été déclaré qu'ils réduiront l'accès de la Russie aux marchés de capitaux les plus importants, mais également que les coûts d'emprunt de la Russie seront augmentés et sa base industrielle érodée.
Les banques aussi ont été touchées puisqu'ils se sont accordés sur l'exclusion de plusieurs banques russes et biélorusses du système bancaire SWIFT telles que VTB, Rossiya Bank et d'autres. Et en plus de cela, les banques de l'Union européenne auront interdiction d'accepter des dépôts de citoyens russes de plus de 100 000 euros et plusieurs entreprises étatiques russes se verront bloquer l'accès au financement européen en plus de gel des avoirs européens pour la Russie et les Russes qui tentent d'entrer en Europe.
Nous pouvons noter aussi qu'en réponse à la reconnaissance par la Russie des républiques autonomes autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, le Conseil de l'Union européenne sanctionne les 351 députés membres de la Douma russe ayant voté cette reconnaissance, ainsi que 21 personnes et structures russes en gelant leurs avoirs et en leur interdisant de séjourner dans l'Union européenne. Une des sanctions les plus importantes est la fermeture de l'espace aérien des 27 pays membres pour les appareils détenus par des Russes. Cependant, les sanctions économiques ne s'arrêtent pas là, car des contrôles et des interdictions des importations et des exportations ont été mises en place.
Comme l'a dit Bruno Le Maire, ministre de l'économie, nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Néanmoins, la Russie fait également face à des sanctions énergétiques. En effet, on constate une interdiction d'exportation qui touchera le pétrole en rendant impossible pour la Russie de moderniser ses raffineries, une interdiction à la vente d'avions également, et en plus de cela, l'accès de la Russie aux technologies nécessaires à la fabrication de semi-conducteurs et d'autres technologies de pointe qui seront par ailleurs limitées.
La Russie s'expose aussi à de nombreuses sanctions culturelles et sportives. Par exemple, le 28 février 2022, l'Euroleague et l'Eurocoupe suspendent les clubs russes de leur compétition de basket. On a également pu observer que les biathlètes russes et biélorusses peuvent seulement concourir sous bannière neutre et sans hymne national en cas de victoire. En effet, les compétitions sportives des athlètes russes sont bannies.
En plus de ceci, de grands événements ont été annulés, tels que la finale de la Champions League, prévue à Saint-Pétersbourg, transférée à Paris. De plus, FIFA et l'UEFA excluent la Russie de barrage de qualification à la Coupe du Monde 2022. Et l'UEFA a également annoncé rompre son contrat, estimé à 40 millions d'euros annuels, avec le mastodonte russe, qui est l'un de ses principaux sponsors depuis 2012. Au niveau culturel, dans le domaine des jeux vidéo, EA Sports, éditeur du jeu FIFA 2022, a annoncé le retrait du jeu des équipes nationales de Russie et de Biélorussie, ainsi que de tous les clubs de ces pays. Par la suite, Disney a annoncé suspendre la sortie de ses films en Russie, y compris son prochain film avec Pixar. Et enfin, Sony Pictures, filiale du groupe japonais Sony, a elle aussi annoncé qu'elle suspendait la projection de ses films dans les salles russes.
Cet article a été rédigé et présenté par Yasmina et Emma. Les sources ayant permis la rédaction sont France TV Info, Toute l'Europe, Wikipédia, Concilium Europa, France Culture et Marianne.
За спокій в країні, за наше відродження, спинити загарбницькі руки.
Nous allons maintenant vous parler du bouleversement de l'économie mondiale. Suite à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les échanges commerciaux se sont modifiés. Certains ont disparu, d'autres sont apparus. En effet, la Russie n'a plus la possibilité d'exporter ou d'importer des produits vers ou venant de l'Union européenne à cause des sanctions qui ont été mises en place contre elle. En revanche, pour empêcher la chute économique de la Russie, celle-ci décida de se tourner vers l'Asie, comme la Chine, sachant qu'aujourd'hui, à l'échelle des États, la Chine est le principal partenaire de la Russie, représentant 14,6% de ses exportations et 23,7% de ses importations. Ces échanges vont donc s'intensifier et ne cesser d'augmenter, comme par exemple avec le gaz qui se dirigera plus vers l'Asie et les pays proches de la Russie, comme le Kazakhstan, la Chine, etc. À cause des sanctions de l'OTAN visant à enfermer économiquement la Russie. La guerre russo-ukrainienne n'impacte pas seulement les échanges de la Russie. En effet, la Chine considère également l'Ukraine comme un partenaire très important, car elle fait partie du projet des nouvelles routes de soie de la Chine. Même si ce n'est pas autant qu'avec les gros pays, leurs relations restent tout de même significatives et très importantes. Mais ces échanges sont à l'arrêt depuis le début de la guerre. En plus de la Chine et de la Russie, cette guerre impacte également le Moyen-Orient puisque la moitié de son blé est importée de l'Ukraine et de la Russie, comme pour le Liban. Des alternatives ont toutefois déjà été prises pour contrer ces conséquences. Le Liban se tournera vers la Roumanie, la Bulgarie et également vers l'Inde. Ces conséquences ne sont pas les seules, il y en a de nombreux autres sur la planète, car cette guerre engendre des impacts sur l'économie du monde entier. De plus, il faut savoir que les entreprises sont des acteurs économiques, donc lorsque celles-ci sont impactées par les conflits, l'économie en elle-même l'est aussi. La guerre russo-ukrainienne a donc forcé certaines grandes entreprises à cesser toute activité en Russie, que ce soit des groupes pétroliers, dans le domaine de l'automobile ou encore dans le secteur de la finance, Leur fermeture leur paraît donc inévitable puisque les entreprises pourraient être entachées en vendant des produits en Russie. Cette prise de conscience des entreprises engendre des conséquences terribles sur l'économie de la Russie puisque plus aucun produit ne peut être importé ou exporté par ces entreprises et ainsi réduire le pouvoir économique du pays. Seulement, l'impact se ressent également pour les autres pays puisque les productions normalement exportées pour ces pays ne seront jamais créées.
De plus, la Russie doit faire face à des sanctions économiques très lourdes. En effet, plusieurs pays du monde entier se sont ligués contre ce pays qui, depuis le 24 février, attaque l'Ukraine. Dès le 25 février, des sanctions sont tombées sur la Russie. Des oligarques et des banques ont été touchés. Des pays du monde entier ont pris des mesures pour sanctionner la Russie, comme retirer plusieurs banques russes du réseau financier SWIFT. D'autres isolent des sociétés détenues par l'État russe. Les États-Unis ont par exemple isolé 25 filiales russes, ont mis en place un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz russe, ont gelé des actifs d'entreprises détenues par l'État russe pour empêcher des levées de fonds en monnaie américaine. Cela s'étend à l'élite russe, aux familles importantes russes et à la Biélorussie. En effet, les États-Unis ainsi que le Japon et la Suisse ont décidé d'étendre les sanctions jusqu'en Biélorussie pour les inciter à ne plus soutenir le président russe Vladimir Poutine. La Suisse gèle les avoirs du président russe, plus de ceux de ses proches, et le Japon a sanctionné 32 fonctionnaires et oligarques russes et biélorusses qui appartiennent à des sociétés telles que Transneft, mais aussi les mercenaires Wagner ou encore le président tchétchène Ramzan Kadyrov. Le Royaume-Uni a quant à lui totalement éliminé les banques russes du système financier britannique. La liste des personnes ciblées ne cesse d'augmenter maintenant, des propagandistes ainsi que des pourvoyeurs d'informations sont touchés. Mais les pays continuent de sanctionner stratégiquement les oligarques russes qui sont d'une très grande importance économique pour le pays. Le groupe Wagner a récemment été sanctionné par l'Union européenne pour avoir recruté et formé et envoyé des agents militaires privés dans des zones de conflit du monde entier afin d'éliminer, d'alimenter la violence, de piller les ressources naturelles et d'intimider les civils en violation du droit international, notamment du droit international des droits humains. Il y aura aussi des très lourdes conséquences sur le tourisme du pays, comme 36 pays ont fermé leur espace aérien aux avions russes et interdit tout avion d'atterrir ou même de survoler leur ciel russe. Cela aura des conséquences assez néfastes sur le tourisme du pays. La Russie est une destination mondiale avec plusieurs sites classés au patrimoine de l'UNESCO. Cet article a été rédigé par Justine Huret et Jonathan Gras. Source Le Monde, France Info, Le Figaro.
За спокій в країні, за наше відродження, спинити загарбницькі руки.
Lui, donc, peu importe les différends qu'il y a pu avoir entre ces deux pays, ils restent tout de même liés et l'Ukraine doit refaire partie de la Russie.
Une nouvelle guerre opposant la Russie et l'Ukraine voit le jour le 24 février 2022. Cette guerre est déclenchée sous l'ordre du président Vladimir Poutine. Les forces russes ont débuté les combats près du dépôt des déchets nucléaires de la centrale Tchernobyl, où ils sont rentrés depuis la Biélorussie. Actuellement, près d'un mois après le lancement de cette guerre, les troupes russes tentent de s'emparer de Kiev, qui est la capitale de l'Ukraine. Elles tentent aussi de s'emparer d'Odessa, qui est une ville portuaire de la mer Noire, localisée au sud. Le 15 mars 2022, un couvre-feu a été mis en place. C'est un couvre-feu de 36 heures, de 20h à 7h du matin. Il sera levé le 17 mars. Le 15 mars 2022, les forces russes avancent vers la ville d'Odessa. C'est une stratégie pour rejoindre plus facilement Kiev, car elles sont directement reliées. Le 16 mars, Odessa a été préservée des combats, mais la pression est toujours présente. Elle s'est même accentuée. 14 navires russes ont pris possession au large des côtes, mais l'Ukraine n'abandonne pas et fait face aux attaques russes. Nos sources sont Le Progrès, Wikipédia et Consilium Europa. Cet article a été créé et rédigé par Maïline, Eden et Janelle.
За спокій в країні, за наше відродження, спинити загарбницькі руки.
Pour commencer, la guerre s'inscrit dans le cadre de la crise ukrainienne, née du mouvement Euromaïdan de 2013 à 2014, qui avait été suivi de la guerre du Donbass à partir de 2014. En 2021, émerge une montée des tensions, notamment à cause de la Russie et la Biélorussie, et la Crimée annexée en 2014. Elle a ensuite décrété l'indépendance du Donetsk et de Lugansk, républiques séparatistes de la région du Donbass. Une offensive générale aérienne, maritime et terrestre est déclenchée sur l'ensemble du territoire ukrainien le 24 février. Quel impact économique la guerre en Ukraine peut-elle concrètement avoir en Europe ?
C'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. Le cours du blé continue de grimper à des niveaux affolants, atteignant près de 400 euros la tonne vendredi. concernant l'échéance de mars et de mai. À titre de comparaison, la tonne s'élevait à 284 euros au mois de novembre. La situation devient de plus en plus tendue. Ensuite, la Russie et l'Ukraine assurent près de 30% des exportations mondiales de blé. Les deux pays doivent mettre près de 15 milliards de tonnes sur le marché d'ici cet été. Désormais, il faudra faire sans. Les pays très dépendants comme l'Égypte cherchent donc des solutions alternatives. Certains d'entre eux se rabattent sur le stock français à l'image de l'Algérie.
L'économie russe dépend de l'exportation des matières premières. Le secteur représente 60% des exportations russes. La Russie est l'un des plus importants exportateurs de pétrole, fournit environ 40% du gaz européen et produit d'importantes quantités de métaux. Le pays est le premier producteur de palladium, utilisé pour la construction de pots catalytiques, de voitures notamment. La deuxième producteur d'aluminium et de nickel et le septième producteur mondial de cuivre. Une expulsion de la Russie de ce réseau de communication SWIFT rendrait difficile et coûteux les transactions financières pour les entreprises russes. Une autre crainte du membre du G7 est la création de systèmes de paiement rivaux en comparaison avec la Chine qui n'utiliserait pas le dollar américain. Or, la perspective de nouvelles sanctions économiques n'a pas empêché Vladimir Poutine de lancer une offensive sur l'Ukraine. Si de nouvelles sanctions économiques venaient à être mises en place, le peuple russe pourrait en pâtir directement. Au lieu de mettre en termes au conflit, de nouvelles sanctions pourraient appauvrir la Russie sans pour autant pousser le pays à déposer des armes.
Pour finir, la Russie a donc été sanctionnée économiquement de nombreuses fois. Mais peut-être que ces sanctions économiques vont pousser la Russie à agir vite afin de ne pas être endettée. Elle va donc collaborer avec d'autres partisans comme la Chine. Ensuite, cette guerre Ukraine-Russie a donc provoqué une flambée des prix, notamment pour les matières premières. Cette guerre a donc de grandes conséquences économiques. Cet article a été présenté par Arnaud Lohan et Sévéan Lucas.
За спокій в країні, за наше відродження, спинити загарбницькі руки.
Les sanctions financières contre la Russie, une arme passive par défaut. Le continent européen et le monde dans son ensemble sont secoués par le déclenchement soudain, ce jeudi 24 février, d'une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Le président russe Vladimir Poutine a décidé l'invasion de l'Ukraine. De par cet acte, plusieurs pays ont immédiatement donné des sanctions financières. Quels en sont leurs effets ? Ces sanctions ont pour but de limiter l'accès de la Russie aux capitaux européens. Cette restriction va permettre de rendre plus difficile le remboursement de la dette russe, ainsi que la réduction de son accès à la technologie sensible. Ou encore l'interdiction de l'exportation de certains matériaux, ou de carrément bloquer le financement d'entreprises appartenant à l'État. Des banques russes sont également visées par ces sanctions, notamment Sberbank et VTB Bank, les deux plus grandes banques du pays, qui se verront restreindre l'accès au marché financier américain. Plusieurs grandes entreprises russes vont subir la même sanction, comme Gazprom, qui est le principal exportateur de gaz en Europe via un important réseau de pipelines. Des figures majeures de l'État russe auront également des sanctions personnelles. C'est par exemple le cas de Vladimir Poutine, ou encore de son chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, qui verront leurs avoirs gelés. La Banque centrale russe verra ses avoirs gelés correspondant à 643 milliards de dollars, a annoncé Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne. La question que l'on peut donc légitimement se poser, c'est est-ce que ces sanctions seront efficaces ? De nombreux dirigeants, comme Joe Biden ou Bruno Le Maire, l'admettent, ces sanctions mettront du temps à agir. Les pays occidentaux pourraient mettre en vigueur d'autres sanctions, mais ces sanctions seront à double tranchant. Ainsi, l'explosion de la Russie dans le système SWIFT ne plaît pas à l'Allemagne ni à l'Italie, car elles sont dépendantes du gaz et du pétrole russe. Selon Bruno Le Maire, d'autres sanctions pourraient être prises en compte contre la Russie. Mais ces dernières doivent encore être adaptées pour ne pas subir un contre-coup trop violent. Cet article vous a été présenté par Mathieu Fitoussi grâce à des informations trouvées sur Le Monde, France Info, France 24, Arte.
За спокій в країні, за наше відродження, спинити загарбницькі руки.
Les stratégies d'attaque de Vladimir Poutine. La stratégie de Vladimir Poutine est très complexe. En effet, l'armée russe est en train de dérouler une opération en trois phases. La première opération est perçue comme rapide et surprise pour créer le choc et l'effroi. Cette opération a eu lieu le premier jour afin que les Ukrainiens ne soient pas ou pas assez préparés à cette attaque. Selon une note de l'IFRI, institution française des relations internationales, publiée le 24 février, où il est écrit « Cette entrée en premier visant la neutralisation des systèmes de défense aérienne pour s'assurer la suprématie dans le ciel et la paralysie du commandement ennemi grâce à des missiles de précision très ciblés. La seconde phase est une opération terrestre où l'on distingue quatre lignes de front. La première autour de Kiev, la capitale, une autre englobant Soumy et Kharkiv, une autre située à l'est aux deux parties du Donbass.
contrôlée par les séparatistes pro-russes, qui annoncent vers Marioupol pour avoir accès à la mer d'Azov. Et enfin, un front au sud constitué depuis la Crimée vers Kherson. Il faut prendre en compte qu'il y avait possibilité de faire face à un cinquième axe de progression qui pourrait survenir à l'ouest, descendant de la Biélorussie au long de la frontière polonaise. L'armée russe passe à l'offensive grâce à un système d'échelons où l'on comprend des chars blindés, des soldats, etc., avec des missions différentes mais similaires.
L'idée de Vladimir Poutine est de montrer qu'il est prêt à lancer l'assaut massif sur Kiev, tout en maintenant les troupes ukrainiennes éloignées. C'est pour ça qu'il conduit des attaques du sud vers le nord et du nord vers le sud. L'assaut terrestre de cette deuxième phase est réalisé par trois vagues de blindés. Une première pour percer la résistance, qui est ensuite renforcée par la deuxième, puis remplacée par la troisième. Mais les Russes ont du mal à faire face à la résistance ukrainienne. La troisième phase de la stratégie militaire russe serait alors l'occupation durable du pays, mais les Russes ont-ils assez de troupes pour occuper l'Ukraine, un pays de 44 millions d'habitants? Pour l'instant, la Russie est toujours en phase 2 du plan d'attaque. Elle n'a pas encore engagé de combat de haute intensité et ne semble pas rechercher le combat de contact.
Pour l'instant, les troupes russes se sont attaquées à des points stratégiques de l'Ukraine, tels que l'aéroport de Hostomel, à proximité de Kiev, afin d'empêcher l'arrivée de renforts étrangers directement en Ukraine. Ils ont détruit la tour télévision de Kiev afin de bloquer toutes sortes d'informations venant des Ukrainiens et favoriser la propagande. L'usine nucléaire de Tchernobyl est un point stratégique grâce à sa position. En effet, elle se trouve directement sur la route entre Moscou et Kiev. Un spécialiste historien de la Russie déclare « Les Russes ont pris la centrale nucléaire de Tchernobyl afin d'éviter des actes de sabotage ou bien des attaques d'artillerie. Personne n'oserait bombarder la centrale. » Les Russes pillent aussi les banques ainsi que des supermarchés, comme le prouvent certaines vidéos, afin de se procurer de la nourriture et de l'argent. Bien évidemment, les Russes se sont aussi attaqués à des civils en bombardant les habitations pour déstabiliser l'Ukraine.
Cette capsule vous a été présentée par Mathis, Hugo et Hugo. Nos sources ont été Le Figaro, Le Monde, ainsi que Le Parisien.
Entre désinformation et persuasion, se renseigner en temps de guerre. Depuis le début des conflits entre la Russie et l'Ukraine, les médias s'emballent et le monde entier se focalise sur l'évolution de cette situation de guerre. Il est très intéressant de remarquer à quel point les informations sont biaisées selon les pays et c'est ce que nous allons présenter ici. Tout d'abord, les médias en Russie abordent un point de vue opposé à celui que nous avons l'habitude de voir tous les jours sur nos médias. Déjà, ils ne parlent pas de guerre ou de conflit, mais bien d'intervention militaire. Ensuite, ils stipulent que la Russie intervient dans une guerre civile en Ukraine, ou que l'Ukraine a commis un génocide dans le Donbass, ou qu'ils sont des nazis et des terroristes selon eux. En bref, selon la presse russe, l'Ukraine est toujours fautive dans le conflit. Cette propagande est également visible dans l'éducation. Cela passe par des cours spéciaux dans les écoles visant à éviter les oppositions à la guerre, mais aussi par des dessins animés avec par exemple un qui mettait en scène deux voisins de classe aux couleurs de la Russie et de l'Ukraine. L'Ukraine est amenée à changer de classe, donc rejoindre l'OTAN, sous la mauvaise influence des États-Unis et se met à frapper d'autres enfants avec un bâton, Luhansk et Donetsk. Au final, la Russie lui reprend son bâton en disant « Je ne frappe pas, j'enlève juste le bâton ».
Nous pouvons également voir ce regard biaisé du point de vue ukrainien. Par exemple, sur TikTok, de nombreuses vidéos montrent des civils en temps de guerre, dans leur quotidien ou dans leur recherche de ressources, en soutien aux autres Ukrainiens et afin de montrer cette vie quotidienne à l'international. Mais attention aux arnaques, certaines personnes n'hésitent pas à se faire passer pour des civils en danger afin de soutirer de l'argent sur ces vidéos. Notamment des vidéos qui montrent des personnes qui ne montrent pas leur visage mais qui parlent à l'arrière, en ukrainien par exemple, et qui demandent de l'aide et de l'argent. Les gens leur donnent donc, comme certains d'entre vous peuvent le savoir, de l'argent via TikTok. Sauf que ce sont des arnaques et en général ce sont des vidéos reprises de véritables réfugiés qui les ont postées des jours auparavant. Mais TikTok n'est pas que négatif au niveau de l'Ukraine et il est également une source d'optimisme, comme nous pouvons le voir avec un soldat ukrainien qui poste des vidéos, qui possède déjà des vidéos avant la guerre et qui a continué depuis. Il montre durant ses temps de pause ou lorsque les troupes doivent bouger. Il montre des danses ou simplement des moments de vie quand ils rechargent leurs armes. Histoire de montrer un petit peu d'optimisme en ces temps compliqués. Nous avons également l'exemple d'une photographe qui a totalement changé de voie et s'est engagée dans l'armée afin de pouvoir soutenir son pays. Également, chose surprenante, Zelensky, le président ukrainien, et sur Twitter. Et il est passé de 300 000 abonnés à... Il est passé de 300 000 abonnés à 5 millions en quelques jours seulement, depuis le début de la guerre. Il poste régulièrement des petites vidéos, des petits discours. Et récemment, il est devenu beaucoup plus menaçant envers les soldats russes. Notamment en leur disant que s'ils entraient sur le territoire, ça allait mal se passer. L'Ukraine est également soutenue par la majorité des pays étrangers à la guerre.
Les réseaux sociaux sont une source d'informations plus ou moins fiables. Mais par exemple, en Russie, les réseaux sociaux sont bloqués. Facebook est l'exemple principal. Donc, les plateformes sociales sont apparues sur Tor. C'est le principal réseau pour l'accès au dark web. Le dark web n'est pas forcément négatif. Il est pourtant simple et sécurisé pour les particuliers. Il est possible d'y accéder à partir d'un téléphone ou même en cherchant juste sur le site. On y retrouve Twitter, la BBC, le New York Times et Facebook. L'Ukraine a interdit Russia Today qui entrave l'influence sur le Kremlin en Europe. L'Union européenne a interdit Sputnik et RT, accusés de propagande russe. La population russe n'a désormais plus accès qu'au discours officiel ou presque, et une nouvelle loi contre les médias sociaux indépendants a été instaurée. Le 4 mars, de lourdes sanctions si diffusion d'informations mensongères sur l'armée à partir du 4 mars, de lourdes sanctions. À partir du 4 mars, de lourdes sanctions seront imposées s'il y a diffusion d'informations mensongères sur l'armée russe, et il n'y a plus aucun accès à Facebook. En prévision, la Russie tente d'instaurer des peines pour les appels à imposer des sanctions à la Russie. Les peines peuvent aller jusqu'à 15 ans de prison.
Donc cet article vous a été présenté par Baptiste, Mélina et Clara, et les sources qui nous ont permis de le rédiger ont été Le Courrier International, Le Figaro, Le Point, Le Monde, Libération, France Info, France Inter, France 24 et RFI. Merci de votre écoute.
Ukraine-Russie, choisis ton camp. Le jeudi 24 février 2022, l'armée russe, sous les ordres de Vladimir Poutine, débute l'invasion de l'Ukraine. La Russie de Poutine est donc en guerre face à l'Ukraine de Zelensky. Dans cette guerre, non loin de la frontière polonaise, de grandes organisations comme l'OTAN ou l'ONU ont pris des décisions. Comme c'est aussi le cas pour certains pays, tels que la Chine, plutôt proche de la Russie. Aujourd'hui, nous vous proposons de vous faire un résumé de la situation. Quels sont les pays en guerre, ceux qui pourraient rentrer en guerre, ceux qui resteraient passifs? Que font les organisations telles que l'OTAN ou l'ONU? Nous allons notamment parler des pays puissants, car nous ne pouvons pas parler du point de vue de chaque pays dans le monde sur ce conflit.
Nous allons commencer par l'OTAN, qui est l'organisation du traité Atlantique Nord, qui est composée de 30 pays, dont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Italie ou encore la Norvège. Il faut tout d'abord savoir que Vladimir Poutine considère l'OTAN comme une menace pour la Russie. À ce jour, l'OTAN ne veut pas d'une guerre ouverte. Elle reste donc externe à ce conflit. Le but de l'OTAN étant à tout prix d'éviter une troisième guerre mondiale. L'OTAN est avant tout une alliance défensive. Pour l'OTAN, la Russie est l'agresseur et l'Ukraine l'agressée.
Nous allons à présent parler de l'ONU, organisation des Nations Unies dont la France, les États-Unis, l'Estonie et d'autres, au total 193 pays. L'ONU considère que cette attaque est une violation de l'intégrité du territoire et de la souveraineté de l'Ukraine. Suite à l'attaque de la Russie, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté une résolution qui déplore l'agression de la Russie sur l'Ukraine. Le procureur de la Cour pénale internationale a ouvert une enquête pour crime de guerre. L'ONU met la sécurité des citoyens au sommet de ses préoccupations et ne souhaite pas non plus d'une guerre ouverte face à la Russie. Elle essaye plutôt d'utiliser les lois afin de bloquer les agissements de la Russie envers l'Ukraine.
Pour continuer, nous allons parler de l'Union européenne, dont la France, l'Italie, la Pologne et ainsi que d'autres pays du continent européen en font partie. L'UE a sanctionné la Russie, notamment en interdisant de nouvelles dettes. L'UE va limiter l'accès de la Russie au marché de capitaux européens, entravant et renchérissant le financement de sa dette. L'UE annonce également la fin des exportations d'une technologie cruciale, comme les composants électroniques. Les banques de l'UE auront interdiction d'accepter des dépôts de citoyens russes de plus de 100 000 euros. Et plusieurs entreprises erratiques russes se verront bloquer l'accès aux finances européennes. L'UE n'est donc pas en guerre directe avec la Russie, cependant un bras de fer économique semble être en cours. Il faut également savoir que d'autres sanctions sont réclamées. L'UE a pris parti derrière l'Ukraine.
Maintenant, nous allons parler des États-Unis. Si on caricature, pour les États-Unis, la Russie est l'ennemi et l'Ukraine est l'ami. Les États-Unis passent pour l'instant par des organisations comme l'OTAN afin de s'exprimer sur la guerre et d'éventuelles sanctions ou actions. Pour l'instant, les États-Unis ne sont pas en guerre contre la Russie.
Pour finir, nous allons parler de la Chine, qui tend plutôt à aider la Russie. Tout d'abord, économiquement, suite aux sanctions prises notamment par l'ONU. Cependant, il semblerait qu'il ait des difficultés à mettre en place ces aides. La Chine ne veut surtout pas avoir à faire face aux mêmes restrictions. Cependant, la Chine semble se ranger du côté de la Russie. Pour conclure, nous pouvons donc constater qu'actuellement, seuls les Russes et les Ukrainiens s'affrontent directement. L'ONU et l'UE prennent des décisions visant à affaiblir la Russie et la Chine semble soutenir la Russie.
Nous sommes Evan Legrand et Milo Brunelet et nos sources ont été TV5Monde, Le Figaro, Sud-Ouest, NATO.com, UNRIC, Le Parisien, Le Journal du Québec.
Ukrainiens, migrants ou réfugiés? Je pense que si je vous dis Ukraine, tout de suite vous pensez à la guerre actuelle avec la Russie. Des bombardements, des troupes militaires, des sanctions économiques, mais surtout des civils qui essayent de fuir. Alors, nous nous sommes demandé, sont-ils des réfugiés ou des migrants? Vous allez voir que très paradoxalement, dans de nombreux cas, on va utiliser facilement le mot réfugié, mais pas toujours. En faisant nos recherches, nous avons remarqué que de nombreuses personnes noires ou d'origine étrangère étaient victimes de racisme ou de discrimination en Ukraine. Comme le démontre un reportage tourné par France 24, où une jeune femme témoigne du fait qu'elle a été insultée par l'armée ukrainienne à plusieurs reprises. Il disait, je cite, « J'espère vous voir tous mourir, ça nous facilitera la tâche. » Ou encore, « D'où viennent tous ces Noirs? D'où viennent tous ces étrangers? Rentrez chez vous. » De plus, les forces ukrainiennes leur empêchaient l'entrée dans des convois d'évacuation, allant même à frapper des femmes enceintes ou avec des bébés. Certaines sont même restées plusieurs jours assises dans le froid, provoquant leur mort. Un article de Positif FR nous dit que même certains trains étaient réservés qu'aux Ukrainiens, et donc leur accès était refusé aux autres. De plus, des journalistes n'ont pas eu honte de dire sur des plateaux TV tels que BBC David, c'est très émouvant pour moi parce que je vois des Européens aux yeux bleus et aux cheveux blonds se faire tuer. Ou encore, sur le plateau de ITV News, maintenant l'impensable leur est arrivé. Ce n'est pas une nation en développement du tiers-monde, c'est l'Europe.
Sur le site de Libération.fr, le témoignage de Alexandre illustre bien notre propos dit précédemment. À la gare de Lviv, à l'ouest du pays, il assure que même des femmes et des enfants ne pouvaient pas monter à bord des trains qui partaient en direction de la frontière polonaise. Il dit, on a dû protester et crier pour que les femmes puissent monter à bord. Il explique que même lui a dû menacer de rester allongé sur les voies pour pouvoir monter à bord du train. Il nous raconte, les discriminations ont eu lieu en Ukraine, juste avant d'arriver à la frontière. Les forces de l'ordre ukrainienne ont d'abord voulu nous faire croire que les Noirs, les Indiens et les Arabes ne pouvaient pas passer par les frontières de la Roumanie. Mais nous avons dû protester contre cela. Ils ont tiré en l'air et nous ont foncé dessus avec leurs véhicules. Il nous dit plus tard, les Ukrainiens faisaient alors le tri entre les Blancs et les Non-Blancs. Je dis les Blancs parce qu'ils ne regardaient pas les papiers d'identité. De plus, Tosan, un membre du réseau mondial de la diaspora nigérienne NIDO, qui se mobilise actuellement pour accueillir ses compatriotes en Pologne, livre le même constat qu'Alexandre, dénonçant lui aussi le comportement des autorités ukrainiennes. Interrogé par Check News, il raconte « La plupart des personnes avec lesquelles j'ai été en contact m'ont dit qu'à la frontière ukrainienne, ils laissaient les Ukrainiens partir avant de s'occuper des autres. La plupart d'entre eux restent debout très longtemps, certains pendant 6 heures, d'autres pendant 72 heures. Ils assurent que les ressortissants nigériens sont victimes de discrimination raciale, qui concerne aussi les hommes que les femmes. De plus, ces discriminations ne s'arrêtent pas à la frontière, elles se prolongent dans les pays voisins. »
En effet, 80 000 étudiants étrangers originaires d'Asie et d'Afrique se sont plaints de comportements inacceptables et racistes causés par les gardes chargés de leur protection. Prenons la gare de Przemysl en Pologne où les Africains, Indiens et les personnes originaires du Moyen-Orient n'ont pas l'autorisation de rester dans les hôtels et donc doivent dormir dehors dans des nuits sous moins 10 degrés. Les vêtements et les couvertures sont les seuls moyens de se réchauffer. Cette inégalité oblige les réfugiés à allumer des feux, mais les gardes n'hésitent pas à les éteindre, les laissant alors dans un froid glacial. Pour éviter cela, mais aussi pour vérifier si les citoyens sont équitablement protégés, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et le Nigeria ont envoyé des représentants sur place qui vont à leur tour confirmer les plaintes déposées. Les pays d'Afrique font des efforts pour aider les milliers de ressortissants à quitter le pays. Une déclaration faite par des réfugiés africains nous informe qu'une fois passée la frontière, arrivés sur le sol polonais, on les autorise à rester que 15 jours maximum. Après ce délai, ils sont forcés de quitter le pays. Contre toutes ces plaintes, la chaîne France TV Info nous informe que l'Ukraine nie toute plainte. Elle affirme qu'elle n'a commis aucune action raciste ou encore en rapport avec des origines des réfugiés. Pour leur défense, les Ukrainiens nous disent qu'ils s'occupent des réfugiés à partir du principe de « premier arrivé, premier servi ». Malheureusement, ce principe n'est pas appliqué car de nombreuses personnes d'origine étrangère ont affirmé que les gardes laissaient passer par exemple 100 personnes occidentales mais que 2 personnes africaines.
Nous constatons donc que les occidentaux sont plus facilement considérés comme des réfugiés. Ils sont vus avec de la peine, alors que les personnes d'origine africaine ou d'Asie sont considérées comme des migrants, avec les connotations que cela engendre. Cependant, tous deux fuient les mêmes risques et les mêmes dangers.
La chaîne Euronews nous a également aidé à enrichir et renforcer nos arguments. Cet article a été rédigé par Nila, Rebecca et Margot.
За спокій в країні, за наше відродження, спинити загарбницькі руки.
Une inégalité frappante des forces armées de l'Ukraine et de la Russie. Nous pouvons donc nous demander comment l'Ukraine va-t-elle faire face à cette guerre dissymétrique. Le conflit russo-ukrainien dure depuis plusieurs jours. La Russie ayant des effectifs de troupes indénombrables face à l'Ukraine, celle-ci est donc inférieure et demande de nombreuses aides à ses pays alliés et frontaliers. En partie les États-Unis, qui partagent 350 millions de dollars d'aide militaire, comme du matériel radio, des camions de transport et 200 missiles. L'Allemagne participe à cette aide en envoyant 1000 lance-roquettes anti-chars, 500 missiles anti-aériens, 9 obusiers, 14 véhicules blindés, des pièces d'artillerie et 10 000 tonnes de carburant. Un troisième pays vient en aide, la Finlande, qui dépose 2500 fusils d'assaut, 150 000 munitions, 1500 lance-roquettes et 70 000 rations de campagne.
Une vingtaine d'autres pays aident militairement et économiquement les armées ukrainiennes. Ces pays aident car l'Ukraine dispose de beaucoup moins d'effectifs et de matériel que la Russie. Du côté russe, les soldats sont 900 000 contre 200 000 pour l'Ukraine. Les avions de combat russes sont 772 et seulement 69 pour les Ukrainiens. Les hélicoptères russes sont toujours supérieurs avec 1543 et 112 pour l'Ukraine. Les forces aériennes sont de 4173 pour la Russie contre seulement 378. Les tanks russes sont de 12240 contre 2569 et la Russie possède 30122 véhicules blindés contre 12300 pour l'Ukraine. Mais la Russie, bien qu'elle soit équipée pour toute attaque ennemie, elle dispose de pays alliés pouvant combattre à ses côtés comme la Biélorussie, la Chine, l'Iran et tant d'autres. Depuis le soutien des forces russes pour combattre avec la Russie durant leur guerre, elles en sont donc devenues redevables. La Biélorussie a permis à l'armée russe d'envahir l'Ukraine en passant par leurs frontières. Au début de ce conflit, on avait supposé que l'Ukraine soit vaincue rapidement, mais au contraire, grâce aux aides reçues, elle a su se montrer imposante et redoutable, ce qui n'a pas pour autant dissipé l'armée russe.
Cet article a été rédigé par Maïlis et Priscilla et nos sources ont été Ouest France, Libération et Le Figaro.
Une leçon de géopolitique.